Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Dans un communiqué publié hier mercredi, les États-Unis ont désigné officiellement les EDF responsables des massacres dans la région de Beni comme la branche de l'État islamique opérant en RDC. Ce groupe terroriste sera désormais identifié sous le nom de Daesh RDC, renseigne le communiqué. L'administration Biden dit appuyer les efforts du gouvernement congolais visant à faire face aux groupes armés et groupes terroristes et à mettre un terme aux violences brutales qui ont causé beaucoup de souffrances aux populations vivant dans l'est de la RDC. Comment analyser cette position américaine au sujet des EDF? C'est l'objet de l'émission Dialogue entre Congolais de ce soir. Et nous avons dans cette émission Paul Mouindo Vahamahou. Il est député national élu du territoire de Beni au Nord Kivu. Il est président du caucus des députés du Grand Nord. Il est aussi cadre du parti politique RCDKML. Bonsoir, honorable Paul Mouindo Vahamahou. Allô, honorable Paul Mouindo Vahamahou. Voilà, apparemment, il n'est pas encore là. Maître Omar Kavota, vice-président du conseil d'administration du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, c'est pas dans un sigle. Bonsoir, Maître Omar Kavota.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir aux co-débatteurs avec qui nous serons dans cette émission.
Et professeur Mouindo Muganda, il est docteur en sciences politiques et relations internationales. Il est professeur à l'université officielle de Rwenzori à Butembo et auteur de plusieurs articles sur les groupes armés opérant dans la partie est de la RDC. Bonsoir professeur Mouindo Muganda. Allô professeur Mouindo Muganda, est-ce que vous êtes là? Voilà, on va les rappeler. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Comme nous l'avons dit dans les sommaires de cette émission, dans un communiqué publié hier mercredi, les États-Unis ont désigné officiellement les EDF responsables des massacres dans la région de Beni comme la branche de l'État islamique opérant en RDC. Ce groupe terroriste sera désormais identifié sous le nom de Daesh RDC, renseigne le communiqué. Ceci arrive au moment où on continue à déplorer les tueries des civils dans la région de Beni. Dans la nuit d'hier mercredi à ce jeudi, trois personnes ont trouvé la mort dans une nouvelle attaque attribuée aux EDF. C'était dans une localité du secteur de Beni Mbau, non loin d'Oicha. Le récit d'André Kitengi.
C'est mercredi aux environs de 19h que ces hommes armés identifiés comme des ADF ont attaqué Matombo, une localité du secteur de Benimbao, à plus ou moins 3 km au nord d'Oicha, indique la société civile locale. Selon son président, les trois victimes, des hommes ont été tués à la machette et à l'arme à feu par ces assaillants, ce qui a créé une psychose au sein de la population hier dans la cité d'Oicha. Philippe Paluku Bonané, président de la société civile d'Oicha, explique.
À partir de 8h45. Le bilan est de 3 personnes, 2, 6 hommes. Ils sont arrivés, ils ont abîmé même une usine de Jean-Pas, donc là où on fait le pressage d'huile de palme. Pour le moment, la situation est relativement calme. Nous avons la peur au ventre, de mais ça ne veut pas qu'il soit encore faire encore vers les après-midi. C'est ça la peur de la population. La police, elle ne sait pas quoi faire parce que c'est ce côté-là où la population s'approvisionne de la médecine. C'est catastrophique.
Cet acteur de la société civile indique que cette attaque a provoqué hier soir un déplacement massif de la population d'Oicha vers les milieux jugés sécurisés. Cependant, ce bilan de 3 morts n'est pas encore confirmé par le porte-parole militaire du secteur opérationnel Sokola 1. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Merci à vous André Kitenge. Paul Mouindo Vahama, où est-ce que vous êtes là? Il n'est pas encore là. Et professeur Mouindo Muganda, est-ce que vous êtes aussi là?
Je suis déjà là, mais captez-vous?
Bonsoir, professeur.
Bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs et à la radio.
Merci. Maître Omar Kavota, est-ce que vous êtes là?
Oui, je vous écoute parfaitement.
Voilà, on va commencer avec vous. Maître Omar Kavota, je rappelle que vous êtes vice-président du conseil d'administration du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO en sigle. Vous avez toujours dénoncé les actes terroristes des EDF dans la région de Beni. Maintenant que les Américains désignent officiellement les EDF comme la branche de l'État islamique opérant en RDC, comment vous réagissez?
En fait, je suis l'homme le plus heureux. Je suis l'homme le plus heureux, d'autant plus que je réalise que le département d'État des États-Unis couronne nos efforts en tant qu'organisation œuvrant pour la paix, la démocratie et les droits humains, mais aussi en tant qu'organisation alertant au quotidien la communauté nationale et la communauté internationale sur le terrorisme auquel nous sommes confrontés à Beni. J'espère, monsieur Guy, vous pouvez consulter vos archives sur Radio Okapi et tout le temps que nous intervenons sur la question des ADF, nous avons toujours attiré l'attention des États, l'attention des autorités et des partenaires de la République démocratique du Congo sur le fait que les ADF MTM qui sont auteurs de massacres ici sont un mouvement terroriste islamiste. Malheureusement, pendant plus de 7 ans, nous avons mené ce plaidoyer. Beaucoup de gens nous ont diabolisés. Beaucoup de gens ont intoxiqué des communautés contre nous. Beaucoup de gens ont pensé que nous étions en train de dire quelque chose d'utopique. Mais maintenant que les États-Unis, à travers le département d'État, arrivent à confirmer ce que nous avons toujours dit, nous réalisons que les États-Unis viennent par cet acte d'exprimer leur solidarité avec notre État et à travers la qualification de l'ADF MTM comme étant mouvement terroriste mondial, aussi que Alpha Tuna du Mozambique et de ce fait, non seulement comme ADF, mais État islamique ou Daesh RDC, nous pensons que notre plaidoyer a abouti et donc nous disons nous sommes le plus heureux parce que la grande puissance a reconnu finalement l'essence de notre lutte.
À partir de ce moment, comme on l'a dit, c'est communiqué, on parlera désormais de Daesh RDC. Et quelles pourraient être les retombées en termes d'opérations, n'est-ce pas, militaires contre les ADF sur le terrain? On voit comment la mobilisation des puissances militaires à travers le monde s'est faite lorsqu'il faut combattre Daesh dans les zones où il opère. À votre avis, quelles pourraient être les retombées de cette prise de position des Américains en termes des opérations contre les ADF souterrains?
Vous venez de le dire, M. Guy. On voit comment est-ce que les États se mobilisent au nom de cette solidarité internationale pour combattre les menaces communes lorsqu'il s'agit surtout des mouvements terroristes. Et l'ADF, qualifié ici, ne doit plus laisser indifférent aucun État civilisé, aucun État qui est engagé dans la lutte contre le terrorisme. Nous pensons que dorénavant, le monde va se mobiliser, les énergies vont se souder aux côtés de la RDC à travers les forces armées, donc le FRDC, pour qu'ensemble, à travers une synergie agissante, on puisse endiguer cette menace commune. Ce n'est pas gratuit. Lorsque un mouvement est qualifié de terroriste, c'est-à-dire ce mouvement est identifié comme ennemi de la paix et de la sécurité du monde. Et de ce fait, les États sont tenus à une solidarité pour endiguer cette menace. Nous pensons que ça ne sera pas différent contre les ADF. Lorsque le département d'État s'engage à déclarer, à désigner l'ADF comme État, un mouvement terroriste international, nous disons que sur le terrain, on doit les sentir. Il faut envisager des opérations robustes, il faut engager plusieurs États aux côtés de la RDC pour lutter contre cette menace, parce que si l'on s'engage contre Daesh en Syrie, on s'engage contre Daesh en Irak, on s'engage contre Daesh en Afrique du Nord, on ne peut pas laisser faire Daesh en Afrique centrale et à l'est de la RDC. Et donc, il importe que le monde soit mobilisé comme jamais auparavant aux côtés des FRDC pour mettre fin immédiatement et définitivement à cette menace internationale.
Maître Omar Kabouta, quelle attitude le gouvernement congolais devrait-il désormais adoptée face aux ZDF. Maintenant qu'il a, n'est-ce pas, cet appui officiel des États-Unis.
Notre pays doit s'approprier cette qualification de ZDF, comme vient de le faire les États-Unis. Notre pays doit s'approprier même les sanctions qui viennent d'être adoptées contre les leaders de ZDF et d'Ansar al-Sunna. Notre État doit aujourd'hui déclarer cet espace comme état de siège. Il ne faudrait plus que notre pays continue à considérer qu'il a à faire des opérations contre un groupe armé. Mais nous réalisons que le pays, à travers les institutions de la République, doit considérer qu'il est engagé contre un mouvement terroriste. Merci. Et de ce fait, il faut déclarer carrément qu'on est à guerre. Il faut aller même plus loin. Il faut déclarer qu'on est en état de siège ici. Le pays est assiégé par un mouvement terroriste, Daesh RDC ou État islamique RDC. Il ne faudrait plus se comporter comme si on était dans une situation normale.
Merci. La réalisation me signale que le député Paul Mouindo est là. Paul Mouindo Vahama, où est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, monsieur Soumaté.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à tous les co-débatteurs, également à tous les auditeurs.
Voilà, je rappelle que vous êtes député national élu du territoire des Béni au Nord Kivu, vous êtes président du caucus des députés du Grand Nord, vous êtes aussi cadre du parti politique RTD-KML. Les États-Unis viennent de reconnaître la nature terroriste des ZDF, et cela après 7 ans de massacres quasi quotidiens qui ont fait plus de 5000 morts dans les territoires des Béni. Comment vous réagissez face à cette position américaine au sujet des ZDF?
Oui, en fait, d'abord, dans un premier temps, je voudrais encore présenter mes condoléances à la population de Béni, précisément celle de Matombo, parce qu'hier encore, il y a eu, je crois, 3 civils qui ont été lâchement tués par les mêmes acteurs.
Nous l'avons dit.
Et pour nous, aujourd'hui, c'est aussi quand même une avancée, parce que le député du Nord Kivu, et même ceux de la partie du Grand Nord, avait plusieurs fois alerté par rapport à cette menace qui était non simplement une menace simplement pour Béni, mais qui était une menace pour l'ensemble du pays. Et nous avions même écrit au secrétaire général des Nations Unies. Nous avions à un certain moment adressé notre lettre aux États-Unis. Et donc, la première impression, c'est de voir que les réponses à nos appels vient d'être couché dans ce qu'ils ont appelé communiqué, ce qu'ils ont appelé désignation. Pour nous, c'est quand même une bonne chose de voir que au moins nos appels ont été pour une fois attendus. La désignation de ZDF comme je ne suis pas spécialiste dans des questions du terrorisme. Vous comprenez, je suis un député national. Et donc, les États-Unis, étant expérimentés avec beaucoup de services, sont parvenus à pouvoir désigner à tant que tel les ZDF comme un mouvement terroriste. Mais il faut savoir que c'est une évolution, parce que les ZDF, au départ, c'était, quand vous prenez les ZDF Nalu, au départ, c'était un groupe islamique, donc, musulman. Et aujourd'hui, ils sont reconnus comme un mouvement terroriste, ça signifie que la réaction par rapport aux actes qu'ils posent mérite maintenant d'être réorientée. Mais il faut dire que dans le pays, on a assisté à plusieurs qualifications. À un moment, le gouvernement congolais disait que c'était d'abord des présumés ZDF. Et à un autre moment, un gouverneur sortant avait dit que c'était des gens qui étaient instrumentalisés, initiés par des locaux. À un moment, nous avons entendu l'armée parler de MTN. À un moment, nous avons entendu l'armée parler des groupes, des IRA, des forces. On a entendu parler de plusieurs types de versions. Et tantôt, c'était des narrés, tantôt, c'était ceci et tout.
Et donc, désormais on parlera des ZDF, plus des présumés ZDF.
Si nous nous mettons d'accord sur le fait qu'aujourd'hui nous devons mettre confiance aux États-Unis et que ce que disent les États-Unis devienne amen, alors on doit dire amen. Mais je crois qu'au-delà de tout, il y a quand même des faits qui ne doivent pas, n'est-ce pas, être inhibés par cette désignation. Parce que moi je crois au-delà de tout qu'il est possible en organisant, n'est-ce pas, la menace qui est faite au niveau de Béni, les attaques qui sont faites au niveau de Béni, ça fait une cumulation de plusieurs facteurs. Et nous avons plusieurs acteurs. Parmi ces acteurs, nous avons aussi maintenant ceux qui viennent d'être qualifiés comme des
ZAD. Paul Mouindo, vous avez reconnu que cette prise de position des États-Unis, c'est une réponse, n'est-ce pas, à vos multiples appels, vous élus de ce coin de la République ainsi que la société civile. Et nous l'avons rappelé dans la question que nous vous avons posée, il y a eu depuis 7 ans plus de 5000 civils qui ont été massacrés, n'est-ce pas, par les EDF. Et à votre avis, quel est le nouvel élément qui peut avoir, n'est-ce pas, amené les Américains à considérer cette groupe armée comme étant la branche de l'État islamique opérant en RDC, parce qu'on a toujours parlé des massacres, on en parle depuis 7 ans, mais les Américains n'ont jamais pris cette position-là. Quel est le nouvel élément qui peut avoir poussé les Américains à prendre cette position-là?
D'abord, il faut dire que non simplement les Américains, même la MONUSCO, dans beaucoup de leurs rapports, n'est-ce pas, n'avait jamais reconnu cela. Et qu'est-ce qui peut amener les Américains à changer de position? Et nous avions, à un certain moment, nous avions même alerté les services, nous étions avec l'armée, pour dire que nos informations faisaient et démontraient que les ADF étaient en train de chercher d'avoir des appuis auprès de certaines forces terroristes dans le monde. Et c'était en 2017-2018 que nous avions rendu publique cette information. Et je crois que le fait que les ADF, à un certain moment, ont été, n'est-ce pas, attaqués et qu'ils continuent à avoir des résistances, leur mode de tuerie, ils sont parvenus, en fait, à convaincre certains de groupes de les adopter en tant qu'un groupe terroriste afin de bénéficier de certains appuis venant de ces groupes-là. Donc, dans cette forêt, nous avons, en fait, plusieurs types de groupes. Vous avez, par exemple, certains éléments du groupe Bissambaza et même Bissambaza lui-même, qui était un des officiers des FARDC, qui avait fait défection et qui se retrouve dans cette forêt-là. Et non simplement cela, vous avez certaines personnes des nationalités étrangères qui sont des fois retrouvées là-bas. Vous avez aussi des fois plusieurs personnes qui sont kidnappées et qui sont transformées également là-bas. Donc je crois que les ADS sont parvenus à un deal avec un certain groupe terroriste au niveau international, dont les Daesh, et ils se sont mis d'accord pour, en fait, être validés en tant que groupe au niveau de Béni et bénéficier, n'est-ce pas, des appuis partant, n'est-ce pas, de ces alliances, et maintenant, qui font d'eux un groupe terroriste à dimension internationale.
Et
donc, je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut dire qu'il y a une évolution. Mais cette évolution ne doit pas amener à ce qu'on puisse fermer les yeux par rapport à tout ce qui s'observe comme faiblesse, tout ce qui s'observe comme menace. Et donc, il y a tellement, c'est une avancée de voir que les États-Unis ont reconnu cela. Ça signifie que nous devons davantage exiger aux Américains, et pas simplement aux Américains, mais au monde, un appui pour mettre fin à cette menace. Mais autant, l'État congolais doit davantage s'organiser pour arriver à mettre fin à cette histoire, bien entendu avec la collaboration davantage de la communauté internationale.
Et au-delà des connexions que les EDF auraient établies, n'est-ce pas, avec certains groupes terroristes à travers le monde, il y a aussi cette actualité que nous avons déplorée la fois dernière. Récemment, l'ambassadeur italien en RDC a été tué dans les parcs de Virunga. Bien que les lieux où il a été tué, où il a trouvé la mort, soient éloignés, n'est-ce pas, de la zone où opèrent les EDF, peut-on affirmer que la mort de cet ambassadeur peut expliquer aussi l'actuelle position des Américains relative aux EDF?
Bon, vous savez, il n'est pas facile pour moi de répondre à la place des Américains. Et je crois qu'ils ont pris du temps à pouvoir arriver à cette conclusion, parce que c'est depuis plusieurs temps que cette question est discutée par rapport à cela. Mais je pense que les Américains ont eu le temps d'abord de s'investir. Et puis, au-delà de tout, vous savez, les rapports qu'entretient aujourd'hui les régimes en place avec les Américains font qu'ils ont la possibilité d'aller partout et de pouvoir, n'est-ce pas, enquêter sur beaucoup de choses. Bon, la mort de l'ambassadeur américain, nous regrettons cela. Et non simplement il y a lui qui avait été tué là-bas, mais vous savez, il y a un officier militaire qui avait également été tué presque dans la même zone. Il était porté de l'argent des soldats militaires. Et il y a également de gardes-parcs presque dans la même zone qui étaient également kidnappés. En fait, cette forme de rançon, de kidnapping avec rançon, c'est aussi une autre manière qui s'observe dans beaucoup d'autres pays où se vit le terrorisme. Et donc je pense que tous ces éléments peuvent être à la base d'amener, n'est-ce pas, les Américains à être convaincus par cette thèse.
Merci à vous, Paul Mouindo. Professeur Mouindo Muganda, vous êtes docteur en sciences politiques et relations internationales. Vous êtes professeur à l'université officielle de Rwenzori à Butembo et auteur de plusieurs articles sur les groupes armés opérant dans la partie est de la RDC. Comment vous analysez cette position américaine au sujet des EDF?
Pour moi, ce n'est vraiment pas du nouveau, parce qu'actuellement aux États-Unis il y a un républicain au pouvoir, et dans le cadre du multilatéralisme, les Américains essaient de sortir un peu de leurs frontières, ils s'occupent moins des questions internes, ils commencent à s'occuper des questions internationales. Mais alors, dans ce contexte précis, lorsque l'on essaie de voir ce multilatéralisme à côté de la désignation de ce qui se passe à Beni ou des auteurs de ce qui se passe à Beni comme des terroristes, il faut aller voir la logique de la désignation des terroristes. Lorsque les Américains désignent un groupe terroriste, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je vais essayer de revenir dans l'histoire. En 1989, par exemple, lorsque la guerre froide finit, et à partir de cette date-là, les États-Unis d'Amérique vont tâtonner un peu comme une puissance mondiale. Jusqu'à ce que le 11 septembre 2001, il y aura un acte terroriste qui va être commis sur leur territoire. Et alors, cet acte terroriste, il va radicaliser leur unilatéralisme et l'unipolarisme. En réalité, lorsque vous allez lire les textes qui soutiennent la thèse du complot, ce sont les Américains eux-mêmes qui se seraient frappés pour sortir le concept des terroristes et avoir la possibilité de contrôler le monde. Je m'explique. Tous ceux qui, à partir de ce moment-là, pouvaient s'opposer à ce qu'ils disaient, il suffisait qu'ils les désignent comme terroristes pour qu'ils puissent replier. Essayons de revenir sur le cas congolais. Moi, je suis un peu préoccupé par cette désignation pour des raisons vraiment simples. Lorsque on désigne un groupe de ce genre comme un groupe terroriste, ça signifie qu'on déclare qu'en RDC, on est dans un état de non-état. Ça signifie qu'on déclare qu'il y a un espace incontrôlé, un espace non libre, comme on dirait. Et alors, dans un contexte où on est en train de craindre qu'on pourrait avoir des velléités sécessionnistes plutôt que la balkanisation, ainsi de suite, un discours de ce genre, lorsqu'il sort, il peut vraiment préoccuper. La deuxième raison pour laquelle il peut préoccuper, c'est qu'il peut s'agir d'un discours qui procède vraiment au blanchiment des responsables de ce qui se passe à Beni. Parce que dès qu'on désigne ce mouvement comme terroriste, on oublie immédiatement qu'il y a des militaires qui ne sont pas nourris ou qui sont mal payés ou dont la faute est parfois détournée. On oublie qu'il y a eu un procès qui a été célébré à Beni dans lequel quelques responsables ont été identifiés. On oublie que nous avons une armée qui n'est pas encore suffisamment républicaine parce que résultat du mixage et du brassage avec beaucoup d'infiltrés dedans. On oublie qu'il y a eu des erreurs d'évaluation de la configuration du terrain pendant les affrontements. Surtout, on oublie la porosité de nos frontières. Est-ce que cette désignation va régler tout d'un coup ce type de problème? On oublie aussi l'ouverture miraculeuse des prisons. Dans ce contexte précis, ce qui est à craindre, c'est que nous sommes dans un contexte où nous risquerions de nous réjouir alors qu'on est en train de vouloir dire « Écoutez, vous êtes incapables de contrôler cette zone désormais, laissez-nous le faire ». Et avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre.
Professeur Mouindo, vous ne pensez pas que cela puisse inquiéter? En principe, et logiquement, ça ne peut que réjouir, surtout ces populations, n'est-ce pas, qui se font tuer tous les jours et qui se sont rendues compte que les forces qui opèrent sur terrain ont été incapables, n'est-ce pas, de les protéger. et que maintenant, aujourd'hui, la grande puissance militaire du monde reconnaît, n'est-ce pas, que les forces qui massacrent les populations là, c'est des forces terroristes. Et vous ne pensez pas que la conséquence logique pourrait être que ces forces-là appuient l'État congolais, mettent des moyens et pour que finalement l'on puisse mettre hors d'état de nuire cette groupe armée qui a toujours terrorisé les populations à Beni.
Monsieur Guy, vous savez, depuis bien longtemps, les États-Unis d'Amérique se sont déjà prononcés. Vous vous rappelez par exemple que le département du Trésor américain, il avait sanctionné certains ADF. À ce temps-là déjà moi, et dans les médias locaux de Butembo, je disais, s'ils les ont sanctionnés, alors ils les connaissent. S'ils ont dit voilà, on coupe leur compte, ça signifie qu'ils les connaissent. En fait, que ça devrait être une nouveauté qu'ils les qualifient alors qu'ils avaient déjà auparavant commencé à les sanctionner. À côté de cela, lorsque vous lisez le communiqué du département américain, vous vous rendez compte qu'il y a un nom aussi de celui des Baloukou. Mais que font les Américains de son chef Jamil Mukulu qui est logé et nourri par les Ougandais? Qu'est-ce qu'ils font des seigneurs de guerre comme Nkunda, Makenga, Mutebu, Sike, les Rwandais et les Burundis?
Bon, Mungo, on revient sur ce communiqué. Hein, il est dit que l'administration Biden va appuyer les efforts du gouvernement congolais visant à faire face aux groupes armés et groupes terroristes et à mettre un terme aux violences brutales qui ont causé beaucoup de souffrances aux populations vivant dans l'est de la RDC. Et à votre avis, cet appui des Américains devrait-il se traduire par quoi? La formation des bataillons d'élite spécialisés dans la guérilla à travers AFRICOM ou alors l'envoi des unités de l'armée américaine pour lutter contre les ADF à l'instar des forces Barkhane dans les Sahel et au Sahara?
Non, je crois qu'il faut attendre un peu pour se prononcer sur cette question. Mais je crois qu'ils vont être un peu progressifs. Maintenant, ils viennent de procéder à la désignation. Il devrait passer à la phase suivante, celle de la signature d'un accord de coopération militaire avec la RDC, dans lequel accord ils peuvent s'accorder que voilà, on appuie la RDC en argent, on appuie la RDC en hommes, ou bien on appuie la RDC en logistique. Mais attention, je reviens sur ma position. Je crois principalement que peu importe la forme que tout cela va prendre, le problème reste intact, comme le disait l'honorable Bauma, aussi longtemps qu'on n'aura pas identifié tous les facteurs et tous les acteurs. On passera toujours à côté de là-bas. Pour ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, je me demande pourquoi ceux qui seraient contents de cette prise de position ne considèrent pas qu'il n'y a pas de cadeau que les États se font sur la scène internationale. Et là, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Je tire la sonnette d'alarme. Cette désignation ne signifiera-t-elle pas un moment qu'il faut créer dans l'Est de la République démocratique du Congo un espace incontrôlé, le désigner comme tel pour avoir la légitimité de l'occuper?
Merci, vous êtes préoccupé, nous l'avons compris. Maître Omar Kavota, les auditeurs sont en train, n'est-ce pas, d'appeler pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets qui les intéressent. Vous allez réagir à la réflexion de cet auditeur qui nous appelle depuis Bukavu au sud Kivu.
Robert Bahomé de Bukavu au sud de Kivu. La position américaine au sujet des ADF traduit la pire distraction du gouvernement américain vis-à-vis du gouvernement de la RDC. Par cette position, le gouvernement américain cherche une voie par laquelle il peut accéder facilement aux différentes ressources de la RDC pour les exploiter. Jamais le gouvernement américain n'a réussi à mettre fin aux groupes armés ou terroristes dans tel ou tel point du monde. Il y a lieu de se demander pourquoi pendant toutes ces années de désordre, de désolation des ADF, ce n'est qu'aujourd'hui où le gouvernement américain s'intéresse à la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Il y a un but de suivre aussi.
Maître Omar Kavota, vous venez de suivre le prof Mouindo qui a commencé d'évoquer cette thèse conspirationniste, cette thèse complotiste. Vous venez de suivre aussi cet auditeur de Bukavu et qui semble voir les choses de la même façon. Comment vous réagissez à cette réflexion de l'auditeur de Bukavu et à cet aspect qui est mis en exergue ici, la thèse complotiste?
Alors, ça ne me surprend pas, parce que finalement, les Congolais, dans la plupart des cas, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Depuis tout ce temps, je vous ai dit, nous sommes engagés dans la lutte pour que effectivement, l'ADF soit reconnu comme mouvement terroriste et pour que les États du monde, du moins ceux qui ont l'expertise à venir dans la lutte contre le terrorisme, viennent au chevet de notre pays, au chevet de notre armée, pour endiguer cette menace. Mais nous n'avons jamais été compris, même par nos compatriotes, pour la plupart, même ceux qui vivent ici, et au Nord Kivu, pour ne citer que le Nord Kivu, même à RDC, je peux vous dire qu'il n'y a pas trois structures de la société civile qui ont qualifié les ADF comme terroristes. Même pas les députés, parce que les députés, vous voyez même l'honorable Paul, est en train d'hésiter pour qualifier ouvertement les ADF de terroristes, alors qu'il sait pertinemment que les ADF sont un mouvement terroriste. Et à RDC, je crois que c'est notre structure, le CEPADO.
Il a plutôt reconnu, l'honorable Paul Mouindo a plutôt reconnu que cette position des Américains face aux ADF est une réponse aux multiples appels, n'est-ce pas, des élus de l'Est et de la RDC.
Un appel aux élus, mais pas comme appel à réponse à la qualification de l'ADF comme mouvement terroriste. C'était un appel, un cri de détresse, comme pour dire les gens sont massacrés. Mais les mêmes députés, je vous dis, ils n'ont jamais formellement reconnu et à haute voix que les ADF sont un mouvement terroriste. Pourtant, les députés ne l'ont pas reconnu. La MONUSCO ne l'a pas aussi reconnu expressément, même si elle pouvait à la limite dire que les actes posés par les ADF sont des actes terroristes, mais elle-même n'a pas qualifié les ADF de terroristes. Et donc je disais que en dehors du CEPADO, notre structure, notre petite organisation, en dehors du journal Les Coulisses, et en dehors d'une organisation internationale que je reconnais, Bridgeway Foundation, qui est une organisation américaine, en tout cas, je n'ai pas vu des structures de la société civile, des organisations citoyennes, ou des députés sortir du grand public de leur silence pour dire qualifions l'ADF comme mouvement terroriste.
Et comment vous expliquez cela?
En cachant tous les moyens nécessaires pour endiguer attaque telle.
Et comment vous expliquez cela? Cette réticence de qualifier les ADF comme étant un mouvement terroriste peut s'expliquer par quoi?
Non. Mon raisonnement, c'est... ça ne s'explique même pas. Parce qu'en réalité, cela a eu pour effet de semer la confusion, de semer une sorte de confusion dans les têtes des populations ici. Cela a occasionné des discours d'intox contre les FARDC, contre les casques bleus, et on a dit ne pas comprendre ce qui se passe à Beni, alors qu'on est en face du terrorisme. Les États-Unis, lorsqu'ils les arrivent à qualifier les ADF, MTM, des mouvements terroristes, mais ils ne cherchent pas les éléments à côté.
Merci Omar Kavouta, nous allons vous redonner la parole. Paul Mouindo, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa.
Reste à la Kiville, province de Kinshasa. Pour une paix durable à l'est du pays, la RDC doit réformer son armée, doit dialoguer avec ses rebelles, car vouloir s'attendre à une solution internationale, celle-ci a montré ses limites. C'est maintenant que les États-Unis d'Amérique identifient ces rebelles, alors qu'ils opèrent pendant longtemps. Les différentes positions de l'Occident envers la guerre de l'Est n'apportent aucune solution. Or, ceux-là qui font ce genre de déclarations sont soupçonnés de soutenir financièrement ces rebelles. La solution à cette guerre est nationale.
Paul Mouindo, vous allez réagir, n'est-ce pas, aux allégations de Maître Omar Kavouta, mais réagissez d'abord, commencez d'abord par réagir à cette réflexion de l'éditeur qui nous appelle depuis Kinshasa.
Oui, merci bien. Après, je comprends que Omar Kavouta, le co-débatteur Omar Kavouta est en train de faire la publicité de son ONG, et il va même plus loin, parce qu'il dit que tous ceux-là qui n'ont pas pensé comme lui sont donc allégeants à la thèse terroriste. Je crois qu'il est en train de se tromper totalement, parce que je dois lui rappeler que la MONUSCO est totalement soutenue à près de 70% par les États-Unis. Et donc, si même la MONUSCO, avec les fonds des Nations Unies ou des États-Unis, pendant tout ce temps hésitait, c'est parce qu'il a fait des éléments concrets. Il faut éviter d'être aveugle par rapport à ce qui se passe à Beni. Et je crois qu'il faut, comme je l'ai dit, il faut pas être joyeux, comme si on vient de gagner une guerre en disant, bon voilà, aujourd'hui les États-Unis reconnaissent les ADF comme des terroristes, et que bon voilà, c'est fini. Non, c'était une épreuve davantage que, comme le professeur l'a dit, un espace qui est totalement sous notre contrôle de l'État.
Et quels sont les éléments, parce que vous avez posé la question de savoir, quels sont les éléments qui pousseraient à ce qu'on puisse être dans l'incapacité de pouvoir affirmer ce que les Américains viennent aussi à leur tour de dire aujourd'hui, car bien aussi hier, ils étaient également hésitants par rapport à cela. Quels sont ces éléments? Le premier élément, c'est d'abord de voir que beaucoup d'attaques qui sont perpétrées ont toujours et souvent été prévenues. Et donc, le fait que l'ADEF ou ces gens puissent prévenir que nous viendrons attaquer Boulogne tel jour et que le même jour ils viennent attaquer, pendant que c'est toujours aux côtés de l'opposition militaire et qu'ils retournent sans qu'ils ne soient attaqués, cela a toujours amené à ce que nous appelons à des liens de complicité, non simplement au sein de l'armée, mais également, peut-être également au sein des populations. Et donc, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait que nous savons que la plupart des personnes qui proviennent même de cette forêt, qui sont kidnappées ou secours, qui sont des victimes, ils parlent de beaucoup de faits. Notamment, ils citent des fois certaines personnes qui les appuient. Aussi, ils parlent du mouvement islamique, parce que la plupart aussi des victimes, ils se disent des fois être formés à des actes islamiques dans la forêt. Mais aussi, il y a un autre troisième élément. C'est une confusion permanente entre même les munitions, même la tenue et des fois même la langue qu'utilisent ces gens avec nos éléments de pardessés. Il y a un autre élément de la justice. Qui sont ceux-là qui ont été à un moment, à un certain moment, qui ont été jugés? Il y avait certains éléments officiers des FARDC. Il y avait également certains étrangers, aussi certaines personnes au niveau local. Donc, je crois que aujourd'hui, on doit éviter de penser qu'on a gagné une fête, qu'on est totalement joyeux, parce que les Américains viennent de le déclarer. Il faut d'ailleurs se poser la question, comme je l'ai dit, et comme le professeur l'a dit, quels sont les éléments qui peuvent amener à ce que les Américains les disent aussi aujourd'hui.
Paul Mouido, s'il faut réagir à la réflexion de l'auditeur qui a appelé depuis Kinshasa, il a évoqué beaucoup d'aspects dans sa réflexion, notamment les dialogues avec les rebelles, parce qu'il estime que l'approche militaire a montré ses limites. Comment vous réagissez à cette proposition de cet auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa? Dialoguer avec les groupes armés.
Je pense qu'il est important, enfin, d'abord, dans un premier temps, il faut dire qu'au départ, les ADF sont des Ougandais, et que donc l'Ouganda doit à tout prix arriver, n'est-ce pas, à identifier leurs leaders et échanger probablement avec eux. Il faut qu'on les prenne, qu'on les retourne dans leur pays, ça c'est un. De deux, je voudrais quand même dire ici que les ADF, ce sont des individus qui communiquent. Ils ont des numéros, ils ont un circuit qui est déjà connu par les services armés. L'État congolais a déjà eu à parler avec ces gens. Et je crois que lorsqu'ils avaient décidé d'échanger avec eux, ils n'avaient pas besoin de points de vue d'un honorable. Le gouvernement est appelé à faire tout ce qui est à l'air possible pour pouvoir protéger les populations.
Merci. Professeur Mouindo Muganda, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Goma au Nord Kivu.
Patienté Kita, depuis la ville de Goma au Nord Kivu. La décision de l'administration Biden est une chose que les États-Unis veulent voir les Congolais vivre en paix et surtout ceux de l'Est du pays. Cependant, les efforts des États-Unis devraient succéder ceux de la République démocratique du Congo qui semble baisser les bras dans la traque de ses ennemis de la paix. Nous saluons cette décision. Certes, la RDC devrait user des stratégies plus efficaces afin de pallier à ce défi majeur du pays. Comptons d'abord sur nos efforts avant de compter à ceux qui nous viendront d'autre part. Car on se connaît mieux que quiconque et c'est nous qui savons à quel point nous souffrons.
Professeur Mouindo, votre réaction par rapport à cette réflexion de l'auditoire qui nous appelle depuis Goma?
Même s'il est appelé difficilement, j'ai eu l'impression qu'il préconise qu'il faudrait que nous puissions d'abord compter sur nos efforts avant de penser aux efforts étrangers, c'est ça?
C'est ça, oui.
Ah, ok, exactement. En tout cas, c'est le point de vue que moi aussi je soutiens, parce que je réitère mon point de vue d'avance, que j'ai peur que ce soit une occasion de déclarer la RDC comme une terre anonyme, une terre qui n'appartient à personne, et l'occuper à notre place. Surtout actuellement, et dans la politique internationale qui marque la rentrée de la Chine sur la scène internationale, On sait que l'Afrique, c'est une chasse gardée pour la Chine et les anciennes puissances ont perdu le contrôle sur certaines zones qu'ils contrôlaient auparavant. Et dans la logique de mettre dehors la Chine, c'est clair que les États-Unis d'Amérique, dans ce contexte où ils doivent passer à le multilatéralisme que les républicains veulent d'habitude, ils puissent revenir en force dans la zone pour essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent voler un peu de terrain aux Chinois. Donc je suis très très d'accord avec le compatriote de Goma. Et je me rallie un peu aussi à ce que disait l'honorable Vaumawa. Et il y a eu un procès qui a été organisé à Beni. Et il y a certainement un point de contact avec les ADF. Pourquoi ne pas renforcer l'armée d'une part et puis dialoguer avec eux d'autre part? Renforcer l'armée d'une part pour dialoguer après pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dialoguer avec eux en position de force. Il faut démontrer qu'on est quand même capable de les jeter dehors et les affaiblir un instant et voir s'ils peuvent être mis hors d'état de nuire. Mais ce que nous devons faire, c'est à l'interne de notre pays, je répète, il ne faudrait pas que cette qualification nous fasse oublier que nos militaires parfois ne sont pas nourris, sont mal payés. Il ne faut pas que cette qualification nous fasse oublier qu'il y a des erreurs d'évaluation pour la configuration du terrain. Et il ne faut pas que cette qualification nous fasse oublier que nos frontières sont poreuses.
Oui. Et ce qui importe maintenant, c'est quoi la solution? Parce qu'il faudrait que les populations qui vivent dans cette partie du pays puissent vivre en paix. Qu'on puisse cesser de tuer tous les jours ces populations-là. Maintenant, qu'est-ce que vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous proposerez pour que la paix puisse revenir et de façon durable à Beni, à Ituri et dans toute la partie est de la RDC? Ça sera sous votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Alors, rapidement, moi j'ai toujours proposé que colloque international soit organisé à Beni où tous les experts peuvent être invités, de telle manière qu'au bout de ce colloque, on soit capable d'identifier les facteurs et dresser quelques recommandations. Mais dites, ce que j'ai toujours dit comme Congolais ordinaire, pas comme chercheur, c'est qu'il faut absolument qu'on organise un dialogue inter-rwandais, qu'on organise aussi un dialogue inter-ougandais qui s'attendent là chez eux. Parce que la plupart des problèmes que nous avons chez nous, c'est de chez eux qu'ils viennent. À côté de cette solution, et la dernière que j'aime d'habitude proposer, qu'on pense à la proposition du service militaire obligatoire pour que le Congo soit doté des réserves de gens qui peuvent se battre lorsque le pays est en danger.
Merci, Maître Omar Kavota. Nous sommes à la fin de l'émission. Vraiment, en une phrase, hein, votre conclusion. Comment faire pour ramener la paix de façon durable dans l'est de la RDC?
Alors, nous devons faire tout et dans une approche multiforme, le combattre militairement, mais aussi couper le circuit de ravitaillement. Nous pouvons arriver ensemble, si la nation est engagée avec ses États-Unis, à endiguer ce phénomène. Et c'est possible d'endiguer si on a une compréhension commune sur l'identité de cet ennemi.
Merci, Paul Mouindo Vaumawa. Votre conclusion?
Oui, je voudrais d'abord dire qu'en attendant, parce que lorsque la méthode ville, on ne cherche pas comment s'habiller, on doit d'abord chercher à mettre de l'eau pour éteindre le feu. Et en attendant, il faut d'abord que notre armée qui est à Beni soit appuyée, parce qu'il n'est pas normal que l'on puisse avoir une armée à Beni sans logistique, avoir une armée à Beni sans ration, avoir une armée à Beni sans carburant. Donc je voudrais, dans un premier temps et à toute urgence, que Kinshasa puisse débloquer beaucoup de moyens suffisants et que cela soit affecté directement à Beni et donc que cela traduise par chez nous. De un. De deux, je crois qu'il est possible, si l'appui des Américains devient direct, on peut arriver, n'est-ce pas, à mettre fin à cette histoire, mais tout en appuyant les renseignements et puis à doter notre armée des capacités logistiques suffisantes.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique, à Kelly Nkouté et Dona Madima qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.